Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Voilà un verset qui, lui aussi, pourrait nous faire dire, lui faire dire des choses qu'il ne dit pas forcément. Pourtant, c'est un verset de la Bible, c'est un verset qui, mis sous mes yeux comme ça, pourrait être un verset particulièrement encourageant. On se dit, waouh, ce que moi j'appelle un verset carte postale. On a tendance à les mettre avec des beaux fonds en arrière-plan pour les donner à des gens qui parfois passent par des moments difficiles en espérant qu'on va les encourager. Et ce verset est souvent compris dans le sens que notre Dieu étant un Dieu bon, un Dieu qui a donc de bons projets pour nous, si nous passons par des moments douloureux, des moments d'épreuve, eh bien ça ne sera que temporaire. Eh oui, Dieu est bon. Bientôt nous serons rétablis et bientôt nous pourrons vivre à nouveau des temps de bonheur, des temps de paix. Ce verset est au cœur du passage que nous allons méditer ce matin et vous allez voir que, regardez le contexte dans lequel il a été donné n'est pas du luxe pour comprendre ce qu'il veut dire. Car oui, c'est un verset qui est source d'encouragement, mais pas un encouragement du style « après la pluie, le beau temps ». Un encouragement bien plus profond, un encouragement bien plus précieux, justement, pour passer les moments difficiles. La prédication de ce matin servira de conclusion à la mini-série qu'on a entamée ces dernières semaines, qui nous amenait sur ce thème « Comment notre foi nous apporte une espérance pour vivre en temps troublé ?» Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles au chapitre 29 du livre du prophète Jérémie. Et nous allons lire une partie du passage dans lequel se trouve ce verset pour essayer de comprendre de quelle manière il veut nous amener à vivre notre espérance dans des temps troublés. Jérémie, chapitre 29, je vais lire les versets 1 à 14 dans la Bible du Semeur. Voici le contenu de la lettre envoyée de Jérusalem par le prophète Jérémie à ceux des responsables du peuple qui subsistent en exil, ainsi qu'aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabucodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. La lettre fut envoyée après le départ du roi Yéconia, de la reine-mère, des fonctionnaires du palais royal, des ministres de Juda et de Jérusalem, des artisans et des forgerons par l'intermédiaire d'Éléaza, fils de Shaphan et de Gemaria, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone, à Nabucodonosor, roi de Babylone. La lettre disait « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demanderez. Car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. L'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple, et je vous rassemblerai du milieu de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés, l'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déporté. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. La première chose qu'il nous faut repérer en écoutant ce passage, en écoutant cette lettre de Jérémie, ce sont les faux espoirs qui sont en arrière-plan. Alors pour ceux qui cherchent peut-être un repère historique, notre passage est une lettre envoyée par le prophète Jérémie aux Juifs déportés à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Nous sommes à peu près, ou peu après 597, au moment de ce qu'on appelle la deuxième déportation. On en a entendu parler, si vous avez souvenir, la semaine dernière, étonnamment, dans la généalogie de Jésus, au moment où il était allusion à Jéconias et ses frères. Si vous avez fait attention, il est question de ce roi Jéconias sans les frères. On a su pourquoi la semaine dernière dans ce passage. Alors précisons que cette déportation a en fait eu lieu en trois temps. Il y a eu une première déportation en 605 avant Jésus-Christ, au moment où Babylone s'impose sur la scène internationale. Elle prend la place de l'Égypte, jusque-là dominante, et exerce une domination désormais sur le Moyen-Orient. Et c'est à ce moment-là qu'une première vague de déportation, relativement réduite, a lieu. C'est celle dans laquelle fait partie Daniel. Et ensuite, il y a une deuxième déportation, parce que les rois de l'époque mettaient en place l'empereur Nebuchadnezzar a mis en place un nouveau roi à Jérusalem qui était censé être à sa solde, mais voilà, les politiques intérieures des pays sont ce qu'elles sont, parfois mouvementées, et Yehoiakim, à l'époque, a voulu se révolter contre Nebuchadnezzar, se révolter généralement contre la tribu qui était imposée aux nations vaincues, et Nebuchadnezzar revient à Jérusalem faire le siège de la ville rebelle en 597, et cette fois-ci, nouvelle déportation, beaucoup plus conséquente, c'est celle dont il est question dans notre texte, c'est celle dont il est question aussi pour ceux qui suivent le prophète Ézéchiel avec Sylvain dans les études Bouche-Tabille. Et puis après, dernière déportation, en 587 cette fois-ci, qui s'accompagne de la destruction de Jérusalem, nouvelle révolte, nouveau siège, et cette fois-ci, l'Empire babylonien en a un peu marre de cette nation rebelle, et dit on va tout raser pour être tranquille, et c'est ce moment si dramatique dans l'histoire d'Israël, où le temple est détruit, et Jérusalem, les murailles, elles aussi, abaissées. Et une bonne partie du livre de Jérémie, est consacrée à prophétiser ces différentes déportations, ces différents moments où Babylone va venir donc s'en prendre à Juda. Jérémie les annonce comme le jugement de Dieu sur son peuple. Elles sont présentées comme la conséquence directe des désobéissances répétées du peuple juif aux lois de Dieu. Et c'est ça qui fait de Jérémie un prophète rejeté, un prophète moqué, un prophète persécuté qui passera pas mal de temps en prison. Tout au long de son ministère, Jérémie n'aura de cesse de condamner en fait les fausses assurances que se donne le peuple de Dieu, qui préfère s'auto-persuader que Dieu est de son côté plutôt que d'écouter la parole véritable de Dieu. Nous avons le temple, on nous sommes protégés. Nous sommes le peuple que le Dieu créateur a choisi. Comment pourrait-il nous abandonner en une nation aussi sauvage qu'étaient les Babyloniens ? Voilà quelques-unes des fausses assurances sur lesquelles s'appuyait le peuple de Dieu. Et vous savez, c'est quoi le problème des fausses assurances ? C'est qu'elles provoquent de fausses attentes. D'autant plus compliqué à repérer que ces fausses attentes, ben, elles sont juste un peu fausses. Oui, Dieu a un projet de bonheur. Oui, Dieu protège son peuple. Mais il y a des mais. Ces fausses attentes étaient notamment nourries par ce qu'on appelle des faux prophètes à l'époque. Un peu des prophètes politiques. Vous savez, ce genre de prophètes qui disent ce que le peuple a envie d'entendre. Oh, ça ne nous arrive plus de nos jours, ça, n'est-ce pas, ce jour d'élection. Des gens qui nous disent qu'on a envie d'entendre, parce que ça, bah, ça nous plaît, ça nous rassure, ça nous donne de l'espérance. Et puis, c'est vrai, Dieu était intervenu dans l'histoire de Judas. 100 ans auparavant, un peu plus même, à une époque où Judas était en aussi mauvaise posture devant un autre envahisseur, les Assyriens cette fois-ci. Et oui, Dieu avait permis un miracle. Et les armées de l'envahisseur avaient fait demi-tour au dernier moment, juste au moment de la prise de Jérusalem. Alors pourquoi pas une nouvelle fois? Mais cette fois-ci, pas de miracle. On l'a vu, plusieurs fois le peuple de Judas a été vaincu par les envahisseurs babyloniens. Mais ça n'a pas découragé les faux prophètes. Même en exil, ils ont continué à propager leur message mensonger. Et c'est en particulier pour dénoncer ces faux prophètes, dénoncer les fausses paroles rassurantes que Jérémie écrit sa lettre aux déportés de Babylone. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes. Ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Il y a des gens qui sont bons en maths dans la salle ? Imaginez, vous avez 40 ans et vous recevez cette lettre. 40 plus 70, 110 ans. Il n'y en a pas beaucoup qui vont le voir, ce retour à Jérusalem. Stop aux faux espoirs. Stop aux fausses attentes. À des Judéens découragés de la situation précaire, dramatique que représente un exil, Jérémie leur dit « Ne vous faites pas d'illusions. En fait, vous ne reviendrez pas. N'écoutez pas ceux qui vous font de vaines promesses, qui flattent vos attentes, vos espoirs, vous annonçant un retour rapide. Car ce qu'ils disent est faux. Vous serez déçus. Votre génération ne reverra pas Jérusalem. Elle ne reviendra pas d'exil. » Comme vous le voyez, ce passage ne va pas du tout dans le sens de « après la pluie, le beau temps ». En tout cas pour celui qui s'attend à revenir à Jérusalem. Ce passage a des choses bien plus profondes à mettre en lumière, en fait. Et la première chose qu'il a à nous dire, c'est « qu'est-ce que j'attends ce matin de Dieu ?» C'est bien d'attendre des choses de Dieu, on est là pour ça, hein ? Ce serait dramatique d'être totalement indifférent dans une foi juste philosophique et qui n'a pas une relation personnelle avec Dieu. Mais si j'attends quelque chose de Dieu, il faut aussi que j'accepte la deuxième question. Est-ce que ce que j'attends de Dieu est légitime ? Ou alors est-ce que j'attends quelque chose de Dieu qu'il n'a pas promis ? Ou en tout cas pas promis dans les termes dans lesquels moi j'attends ces choses. Parce que c'est ça, ma situation, peut-être. Peut-être alors que ce que Dieu veut surtout, c'est que je réaligne mes attentes, que je les transforme. Car pour celui qui est prêt à laisser ses attentes entre les mains de Dieu, il y a bel et bien un espoir, même au milieu des ruines de l'exil. Et c'est toute la force de cette lettre que Jérémie envoie aux exilés. La première chose qui redonne de l'espoir dans cette lettre pourrait paraître paradoxale. Sans doute, on ne se rend pas bien compte, hein, quand même, du drame national que constitue cet exil pour ce peuple. Plus de terres promises, plus de temples, plus d'autels des sacrifices, plus de prêtres, plus de rois de la lignée de David. C'est tout leur monde qui s'écroule. Hein. Ce n'est pas juste une élection. C'est tout leur monde qui s'écroule. Catastrophe nationale. Le peuple a dû se demander, mais où est Dieu dans tout ça? Jérémie affirme dans cette lettre quelque chose de tout à fait étonnant. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. À vue humaine, c'est Nebuchadnezzar qui a vaincu Israël, qui a emporté en exil ce peuple. Mais en fait, en coulisses, et c'est ça qui est déconcertant, c'est l'Éternel, le véritable instigateur. C'est déconcertant parce que, ben justement, avec ce qu'on a lu avant, un Dieu qui a de bons projets pour nous, eh bien, on ne s'attend pas du tout à ce qu'il instigue quelque chose comme cet exil qui semble mettre totalement à bas tout ce que lui-même a instauré. Le temple, la lignée davidique, c'est lui qui l'a instauré. Et quelque part, cette fausse assurance des Israélites est presque normale. Si c'est Dieu qui l'a mis en place, pourquoi le raserait-il? Et Jérémie dit, c'est moi qui ai fait déporter ce peuple de Jérusalem à Babylone. C'est dans un premier temps particulièrement déconcertant, mais en définitive, c'est profondément rassurant. Car cela signifie que, même derrière les apparences qui nous paraissent les plus contradictoires, l'Éternel règne. Même quand ces apparences semblent dire le contraire, même quand nous avons l'impression que quelqu'un qui nous veut du bien ne permettrait jamais cela, la Bible continue d'affirmer « L'Éternel règne. » C'est lui l'instigateur de toutes ces choses. Dieu n'a pas soudainement disparu. Il n'a pas soudainement oublié ce qui nous arrivait. Et ce qui est vrai à l'échelle de l'histoire de l'humanité avec un grand H, l'est aussi à l'échelle de nos vies. De l'imprévu qui gâche notre journée, à l'accident aux conséquences parfois irréversibles sur toute une vie, rien ne se passe sans que Dieu ne l'ait permis. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout. Beaucoup de choses l'attristent, c'est dans ce sens-là que je veux dire, qu'il n'est pas forcément d'accord. La Bible affirme qu'il n'est jamais l'auteur du mal véritable. Mais même au milieu des circonstances les plus difficiles, Dieu n'est pas absent. Il règne sur toutes choses. Et ça, c'est l'espoir le plus solide, si je veux reprendre l'image qu'on a eue tout à l'heure, pour celui qui se confie en l'Éternel, même lorsque les ruines s'amoncèlent. Mais on pourrait avoir l'impression que cet espoir-là est un petit peu inatteignable, un peu lointain, voilà, quelque chose dont il faut nourrir notre pensée, mais on est juste confronté à la désespérance du quotidien. La prophétie de Jérémie n'en reste pas là. Sa lettre appelle à un autre espoir. Un espoir, cette fois-ci, j'aurais envie de dire, à portée de main. À l'époque de Jérémie, la conception de Dieu est régionale. Pour les exilés partis à Babylone, c'est comme si le pouvoir de leur Dieu s'arrêtait aux limites de leur pays. Une fois ayant franchi la frontière de leur pays, bah, ils avaient dans la tête qu'il n'était plus possible finalement de servir l'Éternel. Alors forcément, devant le traumatisme de l'exil, les familles israélites ne pouvaient que s'interroger : quel avenir pour nous et pour nos enfants dans un pays idolâtre où l'Éternel n'est pas ? Et c'est justement là où réside l'espoir de la prophétie de Jérémie. Il annonce certes que l'exil va durer, mais en même temps, il annonce autre chose. Jérémie incite la communauté des exilés à regarder la situation sous un angle différent. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils, donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. L'exil est certes un jugement, mais ce n'est pas une punition ascétique, comme si tout d'un coup, plus rien n'avait d'importance. Depuis plus de 800 ans, le peuple de Dieu était habitué à vivre dans un pays que Dieu lui avait donné. Et une des raisons pour lesquelles Dieu lui avait donné ce pays, c'était pour que rien ne puisse empêcher ce peuple pour vivre selon la loi de Dieu. La constitution de ce pays, c'était la loi de Moïse. De quoi faire frémir nos pays laïcs. Une véritable théocratie où la constitution est régie par la loi de Dieu. Et donc, avec l'exil, ce peuple s'apprête à s'établir dans un contexte complètement opposé à cette loi, dans un terrain hostile à leur foi. Que faire ? Accepter cette situation avec fatalité ? Opérer un recroquevillement sur soi ? Ériger des murailles avec le monde environnant pour que rien ne puisse venir polluer le reste de culture juive qu'ils pourraient emmener avec eux à Babylone. C'est une autre voie que Jérémie propose. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa prospérité dépend de la vôtre. Jérémie, en fait, invite les exilés à ne pas vivre avec la nostalgie du monde d'avant, la nostalgie de Jérusalem. Et puis d'ailleurs, s'ils ont un brin de lucidité, en faisant un peu l'analyse de 800 ans d'histoire, ils se rendraient compte que, même en ayant eu un pays où ils pouvaient vivre selon la loi de Dieu, ben, en fait, ils n'ont jamais réussi à vivre selon la loi de Dieu. Alors, peut-être autant essayer autre chose. Je ne dis pas qu'il faut autant essayer autre chose dans toute situation. Mais Jérémie les incite à voir l'exil à Babylone comme une opportunité pour leur foi. Ne pas vivre uniquement en réaction, mais discerner que Babylone est aussi un lieu où Dieu agit. Et ça, c'est révolutionnaire pour l'époque. Révolutionnaire pour l'époque et totalement d'actualité pour nous. Car comme au temps de Jérémie, eh bien, on peut dire que nos valeurs sont souvent comprises comme étant communautaires, cette espèce de petit groupe-là, en décalage total avec la société dans laquelle il vit. On se sent souvent minoritaire. On a l'impression qu'on est dans une société qui veut construire le monde sans nous. Il y a un parallèle incroyable entre cet exil à Babylone et ce que nous pouvons vivre en France aujourd'hui. Mais comme au temps de Jérémie, on pourrait avoir cette impression que notre seul espoir, eh bien, c'est l'attente que Jésus revienne. C'est l'attente qu'enfin on puisse revenir au pays promis. Au temps de Jérémie comme au nôtre, notre espérance s'inscrit en fait dans la réalité présente, aussi désastreuse que soient les ruines qui nous entourent. L'espoir en la vie éternelle ne consiste pas juste à attendre que la vie ici-bas passe. Elle commence ici et maintenant dans la situation présente. Alors, on l'avait déjà un peu médité il y a 2 semaines en ce qui concerne la situation politique qui trouble notre pays et comment ne pas y faire à nouveau allusion en ce jour d'élection. On se trouve devant des incertitudes qui nous font craindre une espèce d'exil sociétal. Mais ça ne date pas d'hier. Je relisais un sondage d'Ipsos qui date d'il y a 2 ans et qui révèle qu'en fait, 83% des Français se disent pessimistes quant à l'avenir. 83% des Français. Wow. Je ne sais pas si on est représentatif, mais voilà, hein. 8 sur 10. C'est qui les optimistes dans la salle? Ah, il n'y a juste pas Paco. Bon, ça on le savait avant. Nous voulons encore affirmer ce matin que notre espérance chrétienne est d'un profond réconfort. J'espère pas, Paco, parce que on s'occupe pas de ce qui se passe autour de nous. Au contraire, on est pleinement dans ce qui est vécu dans cette société. On n'est pas en train de regarder ailleurs pour ne pas voir ce qui nous effraie. Comme les exilés à Babylone, on est appelé à être, on ne peut plus réaliste sur cette situation, pour voir en quoi nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Le CNEF a publié cette semaine un communiqué qui nous rappelle que notre espérance n'est pas dans ce monde qui se construit ici-bas, mais que notre mission, elle, est pourtant bel et bien d'influencer positivement notre société, afin de rechercher la bénédiction pour notre pays. Écoutez un des extraits de ce communiqué. « N'ayez pas peur, disait Jésus à ses disciples. Dans ce temps troublé, appuyé sur les paroles du ressuscité, l'Église est appelée à démontrer par sa manière d'être, de vivre, de prier, de s'engager, qu'une autre société est possible. Une société où les deux divisions d'origine, de genre, de conditions sociales qui fracture l'humanité ne l'emporte pas. Mais oui, la politique ne peut pas tout. Les protestants évangéliques le savent, hein, c'est un communiqué à destination des autorités. Ils placent leur espérance ultime en Dieu et se tiennent dans l'attente d'un royaume de paix à venir. Mais portés par leur foi, ils agissent selon leur espérance pour être dans la société présente. Ferment de paix, semence de vie, acteur de réconciliation et d'hospitalité. Voilà notre espérance ici et maintenant. La société à laquelle nous aspirons n'est pas possible à Babylone. Elle n'est pas possible dans ce monde déchu. Impossible d'établir cette société prospère, juste, joyeuse, et fidèle à Dieu. Vous devriez me dire, bien, comme espérance, on fait mieux, non? Mais ce qui pourrait paraître totalement déprimant est en fait un atout véritable. C'est le fondement même de notre espérance. Nous savons ce qui empêche notre société d'être satisfaisante. Pas les programmes, pas la vision de la société. Le péché. Nous savons aussi que ce problème a été réglé à la croix. Oui, le compte à rebours a été programmé. 70 ans pour les exilés à Babylone. Nous, on a juste ces textes dans l'Apocalypse qui nous disent qu'un jour, Babylone va s'effondrer d'elle-même. Tout ce qui fait sa fierté va s'évaporer. Et oui, nous pourrons enfin goûter à la nouvelle Jérusalem qui, cette fois-ci, descendra du ciel, on n'aura même plus besoin de faire le voyage retour. À cause de cette espérance, nous sommes forcément gagnants aujourd'hui, dans notre rapport à la Babylone d'aujourd'hui. Nous pouvons réformer sans nous illusionner. Nous pouvons inspirer sans rien imposer. Nous pouvons témoigner sans désespérer. Nous sommes libérés du résultat décevant. Car à chaque fois que nous reflétons à notre petite échelle cette nouvelle société à laquelle nous aspirons,
nous confirmons que nous ne sommes pas de doux rêveurs, que nous ne sommes pas des utopistes avec un programme irréaliste. Ce programme arrive, il vient. Parce que ce pays n'est pas notre destination finale. Nous sommes en exil. Et en moyenne, notre exil dure, oui, 70 ans. Parfois plus, parfois moins. Mais nous attendons ce royaume véritable. Et en attendant le retour à la maison, nous pouvons, quel que soit notre contexte, être témoins de cette espérance. C'est notre privilège. Alors, pour conclure plus largement, résumons-nous. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Il y a dans ce verset l'essentiel pour vivre notre espérance en temps troublé. Jérémie écrit donc une lettre à des hommes et des femmes qui passent par la détresse et qui espèrent de tout leur cœur que la situation s'arrange. Et Jérémie leur annonce tout le contraire. Ceux qui ont été condamnés à l'exil ne reviendront pas. Ceux qui aiment écouter les douces chimères de leur temps vont à leur ruine. De prime abord, cette lettre n'est pas du tout encourageante. Ce ne sont pas les paroles que notre humanité attend. Mais pour celui qui accepte que Dieu est souverain, que rien n'arrive sans sa volonté, qui laisse Dieu corriger ses attentes, l'espoir est là. Oui, probablement, ceux qui sont partis en exil ne reverront pas Jérusalem de leurs yeux. Ils ne peuvent que préparer leurs enfants à le voir, que préparer leurs enfants pour l'heure du retour. Pourtant, cette espérance est pour eux dès maintenant. En œuvrant à Babylone, ils participent à quelque chose qui les dépasse, qui dit justement que cette espérance est réelle. Même si eux, quelque part, ne goûteront pas le goût concret de Jérusalem, ils préparent quelque chose et ils œuvrent dans quelque chose qui les dépasse. Ils œuvrent dans le plan de salut de Dieu, voulu par son peuple, pour son peuple, pardon. Et de même, eh bien, nous œuvrons dans un monde qui se perd, sans certitude de voir le fruit de nos efforts. Mais à la lumière de la croix, nous avons l'assurance que Dieu a accompli le projet de bonheur dont il est question ici. Il l'a accompli en réconciliant le monde avec lui-même, en donnant sa vie pour nous, afin que nous fassions toutes nos attentes dans ce jour où nous serons avec lui. Mais cette espérance ne nous amène pas à fuir la réalité. Bien au contraire, elle nous amène à nous impliquer, ici et maintenant, quelles que soient nos circonstances. Alors soyons rassurés, nous pouvons continuer de donner ce verset à des personnes qui passent par le découragement, mais pas dans le sens « après la pluie, le beau temps ». Je vois deux aspects d'encouragement profond pour celui qui veut s'attacher à la parole de Dieu. Le premier aspect, c'est un avertissement. Comme les contemporains de Jérémie, je peux confondre mes attentes avec les véritables promesses de Dieu. Est-ce que mes attentes sont légitimes ? Est-ce que je suis en colère ce matin ? Pour quelque raison que cela soit, relationnelle, sociétale, nos colères en disent long sur nos attentes. Parce que nos colères nous ramènent toujours à l'idée que Dieu n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Où en suis-je avec mes attentes ce matin ? Deuxième aspect, encouragement profond qu'il y a derrière ce verset, la place des épreuves. Arrêtez de miser notre bonheur sur les actions humaines pour nous reposer en lui. Dieu n'est pas un distributeur de bien-être. Ça, c'est la vision contemporaine de ce que devrait être notre société. Il est souverain et il contrôle les épreuves, même les plus dures. J'ai urgemment besoin d'entendre à nouveau cet encouragement. Dieu travaille aussi en nous par des circonstances inconfortables, par des régressions. Même si nos yeux semblent voir le contraire, nous pouvons avoir confiance en lui, car ses projets, pour nous, sont toujours les meilleurs. Rappelons-nous cela alors que les temps sont troublés. Rappelons-nous que nous sommes amenés à traverser, que les épreuves que nous sommes amenés à traverser sont en fait le crayon que Dieu utilise pour dessiner Christ en nous. Je vais prier. Seigneur, merci parce que ta parole est un roc. Ta parole est un rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer quand notre bateau tangue. Ta parole est un rocher dans chacune de nos vies. Ta parole est un rocher quand nous commençons à avoir peur de l'avenir. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli justement pour que ce roc puisse s'ancrer aujourd'hui, ici et maintenant, tout en conduisant notre avenir vers l'espérance véritable. Et Seigneur, je te prie que nous puissions repartir chacun ce matin avec cette vision de l'avenir, cette vision d'un monde qui, d'un côté, oui, va à sa perte dans la manière dont il fonctionne aujourd'hui, mais pour laisser place, enfin, à ce monde auquel nous aspirons. Alors Seigneur, aide-nous pendant le temps qui nous sépare de ce moment à être des instigateurs de paix, des instigateurs de réconciliation, des instigateurs d'amour. Aide-nous à être ce poste avancé de ton royaume dans cette Babylone, un peu à la manière de ces exilés envoyés, que tu as envoyés toi-même là-bas. Seigneur, nous te prions encore une fois pour l'avenir de notre pays, pour ce qu'il se passe en ce moment. Et nous te prions de nous montrer, chacun dans nos discussions, dans ce que nous pouvons refléter de toi dans notre entourage, comment nous pouvons être ce poste avancé. En ton nom, Seigneur. Amen.